Bonjour les amis, je m'appelle Hervé, je suis un alcoolique et je vais vraiment très bien. Oui, ça se voit pas. Non, c'est vrai. En fait, j'ai appris que je devais être conférencier. Je l'ai appris que vendredi, quand j'ai ouvert le carnet des réunions, j'ai appris que j'étais conférencier. Ce qui fait que ça fait que 2 nuits que je dors pas, à peu près. Donc je vais vous faire mon partage d'alcool et mon partage de rétablissement pour vous amener tout ça sur le langage du cœur. J'ai rencontré Alcoolique Anonyme en 1983. J'avais 26 ans lors d'une première cure à l'hôpital de Saint-Cloud. Les Alcooliques Anonymes sont venus me voir et j'ai tout de suite adhéré à leur réunion et à ce qui se passait. Je vais aller assez rapidement dans les années parce que je n'ai pas 30 ans d'abstinence, hein, je vous rassure. En 1983, j'ai assisté au Congrès national à Paris où à l'époque, ils mettaient du vin rouge sur les tables pour les Alanons. J'en ai profité pour me payer ma première rechute. Et je peux vous dire que depuis cette année-là, il n'y a plus de vin rouge sur les tables des congrès à Paris. Donc je ne sais pas si je suis responsable, mais peut-être. Donc voilà, 1984, j'arrête de boire et j'arrête de boire, je vais en réunion tous les jours, régulièrement. Et j'arrête de boire pour 7 ans. Au bout de 7 ans d'abstinence, je croise dans mon parcours, je croise une femme dans un hôpital où j'allais transmettre le message. Je croise une femme, Nathalie, qui et tout de suite j'ai le coup de foudre pour cette femme. Je tombe follement amoureux d'elle. Il y a pas de problème. On s'emballe rapidement, on va vivre ensemble. Mais le problème, c'est qu'en sortant de cure, elle était à l'hôpital. En sortant de cure, elle continue de boire. Moi, je m'éloigne des réunions. 7 ans, après 7 ans et demi d'abstinence, je m'éloigne complètement des réunions. Je ne vais plus en réunion parce que je suis avec elle dans son malheur, dans sa détresse d'alcool. Ce qui se passe, c'est qu'un week-end, un samedi soir, je me dis, oh, je vais me prendre une tuite juste pour ce soir, parce que moi, je sais comment m'arrêter, je sais quel médicament prendre, je sais comment faire, je sais tout faire. Et c'est vrai que je prends ma cuite le samedi soir et le dimanche matin, je vais à l'épicerie me racheter mes bouteilles de pastis et c'était reparti pour 5 ans. Excusez-moi, Et on a été reparti pour 5 ans. 5 ans de rechute, une rechute terrible, une rechute catastrophique. C'est-à-dire que là, j'ai quitté la région parisienne, j'ai réussi à avoir une mutation de mon travail pour aller en Bretagne. La Bretagne, c'est le petit pays maintenant où j'habite, où je vis, où je suis né. Et c'est là où maintenant je vis et je suis bien heureux. Et en Bretagne, personne ne me connaît. J'ai aucun problème. On ne nous connaît pas, Nathalie et moi. Personne ne nous connaît. Donc on peut faire tout ce qu'on veut. Mais c'est-à-dire que quand on est deux à boire, quand on est deux à picoler comme on picolait, on va beaucoup plus loin, on va beaucoup plus fort. Là, la difficulté, c'est qu'on fait des folies. On n'a pas un rond, on n'est pas riche, mais on achète une maison. On prend des crédits, il y a plein de crédits, il y a plein de choses pour nous faire acheter des maisons. On achète une maison. Et ce qui se passe, c'est qu'on boit de plus en plus. Là, je commence à aller à... Oui ? Ah, d'accord, c'était pour parler un peu. Là, ça va mieux ? Ah, d'accord, excusez-moi. Donc, je sais plus où j'en suis, mais bon, si. Donc, on est en pleine rechute, mais j'arrive à reprendre contact avec Alcoolique Anonyme au groupe de Rennes, où là je reprends contact un soir. J'ai réussi à m'accrocher au groupe de Rennes. Mais on continue de s'enfoncer avec Nathalie, on va très loin, on va beaucoup trop loin. On en arrive à un point où, de toute façon, on faisait plus que ça. On était tout le temps alité. J'arrivais à me lever un jour sur deux pour aller chercher nos boissons, pour aller chercher son kirsch et pour aller chercher mon pastis. C'était l'enfer. C'était vraiment l'enfer. J'allais en réunion, mais en réunion, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. On me l'a répété parce qu'il y a des choses que j'ai oubliées. J'étais sale, j'étais crado, je faisais peur parce que j'étais violent, j'étais plein, j'étais une boule de nerfs, j'étais une boule de haine. J'avais la haine avec l'alcool, j'avais la haine avec tout ce qu'il y avait. C'était la merde, quoi, la merde complète. Et vraiment, on en arrive à avec Nathalie, j'allais en réunion, comme je dis. Et on en arrive à un point où, un jour, le 1er avril, c'est bizarre le 1er avril, comme ça fait des choses, ça fait des bonnes blagues, on était allongés dans notre maison, il y a quelqu'un qui frappe à la porte et qui dit, Monsieur, nous sommes les nouveaux propriétaires, est-ce que vous pourriez dégager ? Et voilà, on était virés. On a perdu la maison, on a tout perdu. Le boulot, on m'avait viré, on m'avait renvoyé du boulot, j'avais plus rien. Je connaissais pas, moi, les aides sociales. J'ai pas fait ça parce que j'y pensais même pas. Ce qui fait qu'on n'avait plus un rond, on n'avait plus rien. Donc, pour boire, eh ben, je m'arrangeais pour picoler, pour voler, pour faire des choses comme ça. Et quand on a perdu la maison, heureusement, il y a une assistante sociale qui est venue nous voir et puis qui nous a trouvé un logement. Un logement, je dirais, juste une pièce pour mettre tous les meubles qu'on avait. Mais heureusement, ce qui a été bien, c'est que les gens qui avaient pris la maison nous ont mis les meubles sur la rue. Et le temps qu'on aille voir le logement qu'on avait hérité, les meubles avaient disparu. Donc on était tranquille de ce côté-là. Au point où on en était, de toute façon, il n'y avait plus rien. Tout le monde, on s'en foutait. On était au bord du ouf, au bord du désespoir. Et ce qui s'est passé, c'est que le 10 mai 1996, donc ça fait maintenant 19 ans, le 10 mai 1996, on était au lit encore avec nos alcools. Moi, je faisais des déliriums tremens régulièrement parce qu'on n'avait pas assez de dose, il m'en manquait. Je faisais des DT, c'était assez affreux. Mais bon, j'avais l'habitude, après tout, c'est vrai. Il y a même un délirium tremens, je me rappelle, je voyais les bêtes sur les murs, et je me disais, t'inquiète pas Hervé, t'es en train de faire un DT, c'est pas grave. Et c'est vrai que ça a été comme ça, les choses. Et voilà, donc le 10 mai 1996, Nathalie, elle me dit, Hervé, je comprends pas, tu bois beaucoup plus que moi et t'es moins malade que moi. Et là, ça fait le déclic dans ma tête. Là, j'ai eu le déclic, le vrai déclic, celui qu'il fallait. Il fallait qu'on se soigne, il fallait qu'on fasse quelque chose. J'ai été voir le médecin du village et je lui ai dit, il faut nous enfermer, il faut faire quelque chose. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai mis Nathalie à l'hôpital pour un mois, voire deux. Et moi, j'ai mis mon chien au chenil pour 3 mois. Je savais pas que j'allais le laisser aussi longtemps. On avait un chien, bien sûr, quand on est dans la merde. On a toujours un chien. C'est étrange, mais on a au moins de l'amour à porter à ces gens-là. C'est le langage du cœur avec le chien. Ça commence là, le langage du cœur. Et ce qu'il y a, c'est que j'ai réussi à me faire enfermer. En fait, je me suis pas fait enfermer n'importe où. J'ai été directement là où était ma place. J'ai été dans un asile psychiatrique. Et c'est vrai qu'à l'asile psychiatrique, je leur ai dit, enfermez-moi, je peux pas, moi, fallait qu'on m'enferme pour que j'arrête de boire. Je savais pas faire autrement. Et voilà. Le 19 mai, j'ai bu ma dernière goutte d'alcool, même si je suis rentré le 14 mai à l'hôpital psychiatrique, j'ai bu ma dernière goutte d'alcool que le 19 mai, parce que j'étais arrivé en voiturette, voiture sans permis, bien sûr, on avait ça. Comme on picole, il n'y a pas besoin de permis. Et donc, j'avais encore un demi-litre de Ricard dans ma voiturette. Et j'ai été boire ma dernière dose de Ricard. Un soir, j'ai pu m'évader de ma chambre de l'asile psychiatrique. J'ai été boire ma dernière demi-bouteille de Ricard ce soir-là. Et le 19 mai 1996, j'ai enfin posé mon verre. Ça y est, c'était terminé. J'ai été en réunion ensuite. Nathalie continuait à être malade. Je crois que j'ai vécu les six premiers mois d'abstinence les plus durs de ma vie. Alors, remarquez, c'est les seuls mois d'abstinence durs de ma vie que j'ai eu, hein, mais bon. Et c'est vrai, j'ai pas eu le temps d'avoir le nuage rose, comme on dit. Il y a le nuage rose pour ceux qui arrêtent de boire parce qu'ils se sentent bien et tout ça. Moi, j'ai pas eu le temps parce que Nathalie, elle était à la maison 15 jours, elle était à l'hôpital 15 jours. La cirrhose commençait à vraiment l'attaquer. Elle était vraiment mal en point. Mais j'avais encore beaucoup d'amour pour elle, beaucoup d'amour. Et ça, c'était très très important. Et voilà. Ce qui s'est passé, c'est que je vais vous avouer des choses. C'est que à un moment donné, dans mon groupe de Rennes à Stivol, j'ai rencontré un ami René. On l'appelait Papinou à l'époque parce que c'était un peu notre père, c'était notre grand-père, quoi. C'était Papinou. Aujourd'hui, je crois que de temps en temps, il doit modérer là-haut au ciel. Hein, mais bon, ça, c'était mon grand-père à moi. Et Papinou, un jour, je lui ai dit, mais pendant mes 6 premiers mois d'abstinence, je dis en réunion, je m'éclate. C'est vrai que j'étais une brute épaisse. On avait toujours peur de moi à l'époque, hein, toujours peur. Et un jour, je gueule, je prends la parole, je gueule, je dis, mais je suis un assassin. Je suis un assassin parce que Nathalie, je vais lui acheter ses bouteilles d'alcool. Je suis en train de la tuer et j'ai envie qu'elle meure. Et là, Là, ça a fait froid. Et je peux vous dire que c'était ça que je ressentais, parce que l'alcool, j'étais en train de la perdre avec l'alcool. Parce que moi, j'avais vécu, on était loin, très loin, et j'étais en train de la tuer avec ces bouteilles d'alcool que j'allais lui chercher. Et mon papillon qui m'a dit, mais non, c'est normal que tu penses ça, parce que dans tout ce que tu fais aujourd'hui, dans tout ce que tu vis aujourd'hui, on peut pas faire autrement que de penser ça. Et c'est vrai, chaque fois que j'étais en réunion et que je prenais la parole, on me disait tout le temps, bon courage. On me disait « Bon courage, Hervé ». Et je disais « Mais non, du courage, j'en ai pas, j'en veux pas. Ce qu'il me faut, c'est de l'amour. Il me faut de l'amour pour que j'en amène. » Et après, j'ai appris une chose, c'est que de l'amour, j'en demandais, mais je ne l'acceptais pas parce que j'étais pas encore en état d'accepter l'amour qu'on voulait me donner. Donc, j'étais pas en état parce que j'étais blessé. J'étais une plaie vivante, comme disaient certains amis. Voilà où j'en étais. Et le 6 décembre 1996, j'étais en train de prendre mon petit déjeuner tranquillement. Nathalie était à l'hôpital, ça faisait 15 jours au moins qu'elle y était. Le 6 décembre 1996, je prenais mon petit déjeuner. Bon, à 9h, l'hôpital qui me téléphone, qui me dit « Monsieur Hervé, votre femme est... » Ils ont pas dit Hervé, hein, ils ont dit mon nom. Hein. « Monsieur Hervé, votre femme est très malade. » Ben, je raccroche et je dis « Je le sais quand même qu'elle est très malade, ça fait un bout de temps. » Il y a 10h, ils me téléphonent, ils me disent « Votre femme est décédée. » Donc voilà. Voilà où j'en étais, voilà. C'était un vendredi, ce jour-là, et le vendredi soir, j'avais une réunion à Rennes, à Stivell. Excusez-moi, Et le vendredi soir, j'avais une réunion à Stivell. Coup de bol, le modérateur, c'était mon papineau. Il veut me passer la parole, je lui dis non à la fin. Il me passe la parole, je pleure, ils ont tous compris ce qui s'était passé, ils savaient que elle était décédée, que c'était terminé. Le lendemain matin, je me retrouve à l'hôpital tout seul à l'hôpital pour aller arranger les histoires, les affaires. Je téléphone pas n'importe qui, je téléphone à mon papineau. Et mon papineau, il dit « Bouge pas de là, reste dans le hall, tu restes où que t'es, tu bouges pas, je viens. » Il est venu me voir, il est venu me prendre, il m'a dit « Hervé, de ta ville, de Rennes, tu ne connais que l'asile psychiatrique, que l'hôpital et que le palais de justice. » Il va falloir que tu réapprennes à aimer ta ville. Et c'est ce que j'ai fait. Il m'a parlé pendant 2 heures, et pendant 2 heures, je l'ai écouté. Pendant 2 heures, j'ai appris des choses, j'ai appris ça. Ça, c'était le langage du cœur que j'étais en train de prendre plein la gueule. Ça, je recevais plein de choses. Je lui ai demandé d'être mon parrain. Il m'a dit, non, t'es trop difficile. pas de balle. Et voilà. Ensuite, ce qui s'est passé dans mon rétablissement... En janvier, 2 mois après ce décès, 2 mois après ce décès, sont arrivés des nouveaux au groupe où j'étais à Rennes. Et je me suis dit, les nouveaux, dont Nicole en faisait partie, les nouveaux connaissent pas mon passé. Ils ont pas à subir tout ce que j'avais de mal, tout ça, tout mon désespoir, tout ça. Et puis mon apitoiement que j'ai fait pendant le mois de décembre et le mois de janvier, je faisais un peu d'apitoiement, on était bien. Et quand les nouveaux sont arrivés, j'ai dit, ils ont pas à subir tout ça, ils ont pas à subir ça. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis accroché à deux nouveaux, il y avait Nicole et Michel. Je me suis accroché à eux et j'ai dit, je redémarre mon abstinence aujourd'hui, ce mois de janvier, je redémarre mes 24 heures et je vais essayer de redémarrer avec eux. Et je les ai accompagnés en réunion tous les jours pour aller en réunion pour m'accrocher en essayant de faire table rase de mon passé. Et voilà. Donc ça s'est passé comme ça. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'avec... Je vais quand même continuer sur l'histoire de Nicole, parce que c'est très important. C'est que Nicole, quand même, on allait en réunion régulièrement, tous les jours, pratiquement. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle est tombée amoureuse de mon chien. Oui. Donc, vous comprenez bien que ce qui s'est passé, c'est qu'on a créé une relation très intime. Et voilà. Elle est là aujourd'hui et voilà, et on partage tout ça. Voilà. Non, mais ce qui s'est passé aussi, à ma première bougie, je voulais dire ça aussi, ma première bougie, quand j'ai fêté mon premier anniversaire, je me rappellerai toujours les paroles de mon papinou. Il m'a dit tout simplement, Hervé, pour moi, tu es un miracle. Et c'est vrai que par rapport à d'autres amis aussi qui m'avaient laissé pour mort, qui croyaient que j'allais crever. Bah pour eux j'étais un miracle, je ne sais pas pourquoi, mais c'est vrai que je crois que j'ai eu une renaissance le 19 mai 1996, ça fait 19 ans que ça dure et c'est vraiment formidable. Aujourd'hui je vais bien, je transmets le message, J'essaye, j'ai des filleuls, et j'essaye de leur transmettre tout ce que j'ai appris, tout ce qu'on m'a donné. Voilà ce que je dirais. Et je voudrais terminer par une chose, sans faire... En plus, je suis dans les temps, je suis content. je vous ai pratiquement tout dit sur ma vie, parce que maintenant, ma vie est heureuse quand même. Des petites choses de rien quand même. J'ai eu le cancer de celui qui a beaucoup bu et beaucoup fumé, le cancer de la bouche. C'est pour ça que je suis obligé de boire de temps en temps. Parce que je m'en suis sorti aussi. Et puis après le cancer, il y a Nicole qui m'a dit, ça serait bien qu'on se marie. Donc voilà, on s'est mariés. Non, on a d'abord vécu ensemble. On a d'abord vécu ensemble et après on s'est mariés. Donc ça fait 18 ans qu'on se connaît et 18 ans qu'on vit notre voyage alcoolique anonyme ensemble. Et c'est vrai que vous me verrez pas m'éloigner des réunions parce que c'est trop important. Je me suis éloigné une fois, j'ai tout perdu. Là, il faut qu'au minimum une fois par semaine j'aille en réunion. Et là, je viens là parce que franchement, j'en prends des réunions. Et puis on apprend des choses ici avec les Canadiens. Hein. Donc voilà, je suis vraiment heureux. Ce que je voudrais dire, c'est une dernière chose. C'est sans faire de démagogie. Moi, j'ai 19 ans d'abstinence. J'ai des amis. On est un groupe de Français. On est 28 Français dans le groupe de voyage. Mais il y a d'autres Français qui sont venus tout seuls. Mais dans mon groupe, on est plusieurs. Il y a 30 ans d'abstinence, 19 ans d'abstinence, 18 ans d'abstinence. Tout ça, ça n'a pas d'importance. Par contre, on a amené des jeunes. On a amené des jeunes qui ont 4 ans d'abstinence, un autre, mon filleul, qui a 2 ans d'abstinence, une autre qui a 1 an d'abstinence. Mais je voudrais dire aussi une chose qui est très, très importante pour moi. C'est qu'en ce moment, dans notre groupe, il y a une personne qui n'a que 4 ou 5 jours d'abstinence. Elle est là avec nous. Alors si au moment des applaudissements, vous voulez applaudir quelqu'un, ça sera elle. Lève-toi, Annie. Non, Annie. Annie, c'est toi. C'est toi, Annie. Et s'il y a quelqu'un à qui il faut transmettre le message, c'est à elle. Parce qu'avant de venir, elle était pas bien. Je savais même pas, en organisant le voyage, j'étais pas sûr qu'elle vienne avec nous. Aujourd'hui, on a pu la ramener. Et j'espère que ce congrès enfin, elle va pouvoir poser son verre. Merci à toi d'être là, Annie. Autrement, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire, en breton, quand on se quitte, on se dit kenavo. Mais kenavo, ça veut dire au revoir. Et puis, je sais pas si je te reverrai. Mais par contre, quand un breton a envie qu'on revoie quelqu'un, c'est kenavo avec chal, ça veut dire kenavo, au revoir, et j'espère qu'on se reverra. Et c'est ça que je vous dis.
Oh, merci Hervé, j'ai bien aimé ça. Si je comprends bien, il y a un chien de rue en quelque part. Félicitations, Annie, d'être ici parmi nous. Notre raison, c'est le nouveau, la nouvelle. Tu fais partie de notre raison d'être ici. Donc, on va passer à l'autre conférencier. Comme je vous disais, un de mes amis de longue date. Sans plus tarder, je vous demande d'accueillir Jacques.
Mon nom est Jacques et je suis un alcoolique. Ah, oh, c'est breton. Je suis plein de gratitude d'être ici puis d'avoir été demandé à partager. Ça fait moi à peu près 2 mois, peut-être un petit peu plus que je sais ça, puis j'ai reviré ça dans ma tête, toutes les bords. J'ai écrit des petits bouts de papier, puis je les ai tout oubliés. Et puis c'est ça, je vais vous partager mon expérience à moi. Ça fait 4 ans, c'est marqué Jacques Québec, mais ça fait 4 ans que je suis au Nouveau-Brunswick. sur le bord de la baie des Chaleurs, et puis j'étais un adepte de la moto, puis j'ai monté à Atlanta en moto. On a fait 3300 km de moto pour arriver à Atlanta. Et puis je regardais moi, dans un livre les températures à Atlanta, c'était 30-31 degrés. Puis les températures à Petit Rocher, Nouveau-Brunswick, où j'habite, c'était moins 4, 4, 6, 7. Fait, j'ai parti à 6 degrés, puis j'ai dit, je vais m'améliorer, il va faire 20, puis il va faire 20. Puis ce matin, il fait 27 à Petit Rocher, puis moi, il y a Atlanta. Le langage du cœur. Le langage du cœur, oui. Le langage du cœur, on peut penser, c'est partager avec son cœur, c'est un langage du cœur. Mais le plus beau langage du cœur pour moi, c'est l'accueil. C'est quand je suis arrivé au mouvement, être accueilli, avoir une caresse. Un alcoolique avec un autre alcoolique. Moi, dans ma vie active d'alcoolique, du début, là, j'étais comme un petit gars gêné, pogné, puis quand j'étais à l'école, le professeur demandait des questions, je savais réponse dans ma tête, mais j'étais trop gêné pour élever la main, parce que si je l'aurais pas eu bonne, qu'est-ce que les autres auraient pensé? Puis j'ai goûté à l'alcool, moi, assez jeune, je devais avoir 13 ans, 14 ans. Et puis quand j'ai goûté à l'alcool, j'avais trouvé la solution pour être bien dans ma vie. J'étais moins gêné. Ma peau, elle me faisait mieux. Et puis, je savais pas que c'était le commencement de mon enfer. J'ai bu, puis je vais vous faire une histoire assez courte de ma consommation. À 16 ans, moi, je me suis éveillé attaché dans un lit d'hôpital. Je voyais des bébés sortir par les coins de mur, puis je faisais du délirium. Je sais pas si c'est les mêmes bébés qu'Hervé a vu, mais il y en a partout dans le monde. Et puis, j'ai fait ma première cure de désintoxication à ce moment-là. À 16 ans, moi, ils m'ont dit que l'alcool, c'était pas fait pour moi. Puis, je me rappelle, à ce temps-là, ils nous montraient des projections sur le mur, ils nous montraient des films, puis ils montraient des fois qu'ils se défaisaient avec l'alcool, puis tout ça, mais ils m'ont pas fait peur assez. Puis j'ai sorti de là, de cette thérapie-là, puis j'ai dû être à peu près une semaine sans consommer, puis ça a reparti de plus belle. Puis je demeurais dans la ville de Québec à ce moment-là, moi, puis ça a toujours été en progressant, puis l'alcool m'a fait faire des choses que j'aurais pas dû faire, l'alcool... À un moment donné, j'étais chez moi. Mon père est décédé, j'avais une quinzaine d'années, puis je restais chez ma mère, j'avais deux frères. J'ai encore deux frères. Puis j'étais entré dans chez moi, puis je voulais que ça finisse. Fait que j'ai pris mon fusil, un 12 dans le garde-robe, puis je me suis assis dans le salon, puis j'ai dit, ça va finir à soir. Puis mon petit frère s'est réveillé, puis il s'en venait dans le corridor, puis j'ai dit, avance pauvre, donc je te tire. Puis il a avancé, puis j'ai tiré. Et puis, Dieu merci, il y a rien eu. Mais dans l'autre appartement à côté, il y avait un monsieur puis sa madame qui dormait, puis ils sont réveillés en sursaut. Il y avait un trou comme ça à la tête de leur lit. Moi, Dieu, il m'a protégé pour moi tout le long de mon parcours de consommation. Le lendemain, la police est venue, pas le lendemain, tu le fais, la police est venue, puis ils m'ont emmené, puis monsieur le juge, le lendemain, condamné à voir un psychiatre. J'ai vu le psychiatre, mais quand je suis en boisson, quand je suis sous, je suis fou, mais quand je dégrise, je suis correct, puis le psychiatre, il a dû croire mon histoire. Puis il m'a dit, recommence pas ça. Il aurait dû m'arrêter de être là, puis m'enfermer. Puis, j'ai continué, puis à un moment donné, il fallait que je parte de Québec parce que j'avais fait des choses qui m'obligeaient à partir, mettons. Puis je me suis réveillé en Alaska, moi, puis en Alaska, j'ai bu parce qu'il faisait frais. Puis de l'Alaska, j'ai été là un bout de temps. Puis je me suis réveillé à San Francisco. Puis j'ai bu parce qu'il faisait chaud. Ce mal-là, je le traînais dedans, moi, puis peu importe où j'étais sur la planète, il était là. Il me suivait, puis il me faisait mal. Moi, je vous parle, on est dans les années 67. J'étais un hippie, moi j'ai une barbicette, les cheveux aux fesses, et puis all you need is love. Puis à San Francisco, où je restais, il y a des maisons toutes sortes de couleurs, hein. Puis je les trouvais comme ça. Puis les autres hippies, ils m'ont donné d'autres nananes, puis j'ai commencé à les trouver belles en Moses, ces maisons-là, ces maisons-là. Puis j'ai été là un bout de temps, puis je revenais à Québec. Puis quand j'étais parti, moi, dans cette aventure-là, j'avais rencontré une fille, puis j'avais dit, je m'en vais faire un voyage dans l'Ouest pour ramasser de l'argent, puis te marier quand je vais revenir. Puis quand je suis revenu, j'ai emprunté de l'argent pour aller consommer. Puis la vie est bizarrement faite, hein? La vie est bizarrement faite. On s'est marié en 1970. Et puis, on a eu une belle aventure. On a eu une belle aventure. Mais l'alcool a progressé, puis a progressé, puis je vais vous emmener en 1976. En 1976, là, quelques années avant, là, l'alcool, elle m'avait emmené à plus dur, puis à d'autres substances, puis tout ça. Puis, j'ai passé bien des années dans mon enfer à moi. Puis en 1976, là, même les médecins, là, dans mon affaire, c'était éthylisme aigu avec comportement violent. Puis j'étais comme dangereux. Puis ma famille, pour se protéger, puis pour me protéger, ils m'ont fait interner. C'est drôle, hein? Hervé partage, puis il se fait interner en Bretagne, puis moi, je me suis fait interner. C'est des parcours de misère. Puis je me réveille, moi, j'ai 30 ans. Je suis d'une cellule capitonnée d'un asile. Puis je peux plus déranger personne. C'est marqué dans notre gros livre, hein? En prison, l'hôpital ou la morgue. C'est ça. Puis, tu vas manger le matin, puis tu manges avec une cuillère, en tout cas, puis tu reviens. Puis dans des cellules, il y en a qui parlent tout seul, puis il y en a qui chantent, puis il y en a qui jouent de la guitare. Puis il y en a qui sont encore là, Puis moi, je suis. Quand je regarde, moi, par la grâce de Dieu, là, c'est ça. J'ai rencontré AA, moi, en 1977. Ça fait... Ben, ça va faire 38 ans. Puis, quand j'ai sorti de mon asile, j'avais fait des grandes promesses à ma femme, hein. Certains, là, je te promets, je ne boirai plus jamais, jamais, jamais. Puis j'ai bu encore pour une couple de mois, puis au bout d'une couple de mois, j'ai demandé de l'aide, et puis l'aide est arrivée. C'est drôle, là, le langage du cœur, tu sais. Moi, quand ma famille m'a fait interner, là, c'était pour se protéger, c'était pas le langage du cœur. Ils comprenaient pas ma souffrance, ils comprenaient pas. Je voulais arrêter, pas capable d'arrêter. Et puis, j'ai demandé de l'aide, moi, puis AA s'est présenté à moi. Puis un soir, il y a deux personnes qui sont venues me chercher, puis ils m'ont emmené faire mon premier meeting AA. Puis je me rappelle, il y avait un petit camion, puis c'était serré là-dedans, puis j'étais entre les deux, puis j'avais chaud. Puis le plus proche meeting, ce soir-là, je restais, moi, à Mont-Laurier, dans le nord de Montréal, dans le nord des Laurentides. Puis le plus proche meeting était à 2 heures de là. J'ai dit, ils sont malades. C'est... Puis ils m'ont emmené à mon premier meeting à 2 heures de là. Un alcoolique qui aide un autre alcoolique. Puis je me rappelle, le meeting était dans un deuxième étage. Puis j'ai rentré là. Puis j'ai vu du monde qui riait. J'ai vu du monde qui avait l'air bien. J'ai pas compris grand-chose. Mais ça me dit dans mon cœur qu'il y avait une place pour m'en sortir. Qu'il y avait une place pour me rétablir. Et puis Réal, qui était un des deux membres, il m'a pris sous son aile, puis il était mon parrain bien longtemps. Et puis, Réal, il venait me chercher, puis il m'en a fait un meeting. Puis il venait me chercher, il m'en a fait un meeting. Puis après le meeting, on arrêtait au restaurant, puis il disait, « Jacques, mange des sundaes au caramel, ça va te faire du bien. » Il m'avait fait manger de la marde, puis je n'avais mangé. Je voulais juste que ça arrête, hein. Je voulais juste être bien, être bien. Dans mes derniers temps de consommation, là, être bien 5 minutes, 10 minutes, ça a arrêté une vacance. Et puis mon aventure a parti comme ça. Puis au bout de 4 semaines à peu près, on me demande de partager. Puis Réal, il me donne un coup de coude, il dit, oui. Bon, ben si Réal dit oui, il va dire oui. Et puis arrivé au partage, on dit Jacques. Jacques est arrivé en avant. Je m'appelle Jacques, puis j'étais un alcoolique. Puis j'ai parti à Boyer, puis j'étais allé m'asseoir. C'était mon plus court partage. Puis en même temps, ça a été mon plus beau partage. Je m'appelle Jacques, j'étais un alcoolique. Je suis plus un trou de cul, là, puis je suis plus un bon rien. J'ai une maladie, puis j'étais un alcoolique. Puis ça a commencé là. Les alcooliques qui m'ont aimé, ils ont vu ma détresse, puis ils m'ont aimé avec le cœur. C'est drôle, quand je suis arrivé à Roche, je prenais mon café, je chéguais de même. Puis un matin, j'étais avec mon ami Normand, puis je prenais mon café, puis je chéguais de même encore. C'était comme Les nerfs de venir partager, puis les émotions. Puis, c'est ça, ça a parti comme ça. Ça n'a pas toujours été bien. Moi, ma femme, à ce moment-là, faisait de l'analon, puis on était bien, on faisait des réunions ensemble, puis tout ça. Puis, à un moment donné... j'ai une occasion d'affaires, puis je la prends, puis ça va bien, puis on voyage, puis moi je fais de la moto, puis ma femme me fait de la moto, puis on roule, puis on a du plaisir. Et puis, à un moment donné, la maladie... C'est à moi, ça?
Non, pas tout de suite. Oui. Ça sent bien.
Time up. Non. Puis, la maladie arrive dans notre vie, hein, puis... on a subi des traitements, puis tout ça, puis... puis, à part. En 2012. Mais avant ça, on a eu, dans le rétablissement, on a des promesses, hein, on a eu des promesses, on a eu du bon temps. Et puis, j'avais dit, moi, quand ça va faire 25 ans qu'on va être mariés, je t'emmène manger au Jules Verne dans Tour Eiffel. Puis, le 10 octobre 95, ça faisait 25 ans qu'on était mariés, puis on était assis au Jules Verne dans Tour Eiffel. Les jardins Trocadéro, là, puis c'était toute beauté, c'est. C'est le souper m'a coûté le plus cher de ma vie. Mais c'est parce que j'avais arrêté de consommer que j'ai été capable de faire. Parce que j'avais arrêté de consommer. Puis elle s'appelle Pierrette, puis à un moment donné, Pierrette, à part la maladie, l'a emporté. Puis moi, j'avais fait du mal à cette femme-là dans ma consommation. Hein, puis au moins... Dans mon abstinence, puis tout ça, on était capable de tout se réconcilier, puis on était capable de se dire merci pour nos vies, puis j'ai continué ma vie. Et puis c'est ça, j'ai rencontré une autre madame, puis ça n'a pas marché, puis j'ai rencontré une autre madame et tout. Puis là, je suis retombé en amour. Je sais pas comment qu'on est fait, nous autres, les alcooliques, mais... Ben, moi. On va parler pour moi. Au Nouveau-Brunswick, on dit ça, moi. Moi, en tout cas, je tombe en amour vite. Puis ça va bien. Mais elle me laisse un moment donné pour un autre. Moi... J'ai jamais connu le ressentiment, hein? Mais aujourd'hui, si tu veux me parler de ressentiment, tu peux m'en parler, je sais ce que c'est. Et puis, c'est épouvantable. Ça m'a quasiment, moi, après 25 ans d'abstinence, le ressentiment m'a amené proche, proche de même de la bouteille, proche, proche, proche de même. Je me levais à nuit pour... Il m'a allé où son char, là, puis il m'a brûlé son char, puis il va aller en tout cas, puis je revenais des meetings avec mon ami Normand, puis là, je passais au 80, et là, j'ai dit, si je m'enligne demain, mais je le tue, m'en fessée, puis je le tue. Puis mon Normand, j'ai dit, comment je vais faire m'en sortir? Il dit, prie pour elle. Prie pour elle! Je veux qu'elle meure aussi. Mais je peux vous dire que je me suis libéré de ça quand j'ai prié pour elle. Quand j'ai demandé à mon Dieu, là, qui occupe-toi d'elle, là. Puis ça a commencé à aller bien. Puis après ça, ben, j'ai rencontré une autre madame. Puis ça a fait un temps. Puis après ça, j'ai rencontré une autre madame. Puis ça va bien aujourd'hui. C'est une Acadienne, puis on est bien ensemble. Puis c'est ça. Mais entre ça, j'ai un gars et une fille. Moi, je me rappelle, et je vais finir avec ça, je me rappelle, moi, mon petit gars, moi, il avait 3 ans. Mon fils, il avait 3 ans. Là. Puis quand j'arrivais à la maison, là, il ouvrait le frigidaire, prenait une bière et me l'apportait. Puis ses yeux étaient tristes. Ses yeux étaient pas gais. Parce qu'il savait que ça finissait pas bien puis ça finissait jamais bien. Puis ma fille, elle est venue au monde, j'avais arrêté de consommer. Mais quand j'ai arrêté de consommer, moi j'ai été à peu près 6 ans sur... j'étais impuissant devant l'alcool, point, là, j'avais perdu la maîtrise de ma vie, c'était pas vrai. Puis J'étais 6 ans dans cette misère-là, dans mon rétablissement, jusqu'à temps que je lâche prise, puis j'embarque dans le programme à fond. Puis, aujourd'hui, je suis grand-père, j'ai une petite fille, hein, puis deux petites filles, puis un petit bonhomme. Puis ma petite fille, quand je les vois, là, ils n'ont pas peur. Ils me sautent d'un bras, puis ils m'embrassent, puis ils ont les yeux gais. Puis rien que ça, là, ça vaut mon rétablissement. Ça vaut mon rétablissement. Puis c'est ça. C'est ça l'histoire de Jacques. Puis c'est ça l'histoire de Hervé à ressembler à Jacques. J'ai pas de chien, par exemple. J'ai pas de chien. Puis, je me rappelle, moi, j'ai travaillé un grand bout de temps, parce que j'étais un globe-trotteur un peu. J'ai travaillé dans l'Oural, moi, 1600 km en haut de Moscou. Et puis, quand je revenais, j'arrêtais à Paris tout le temps. J'arrêtais à Paris. Mon fils demeurait à Paris, là, il demeure à Genève. Puis, j'arrêtais à Paris, puis j'allais à l'église de la Madeleine, il y a un meeting, là. Puis là, j'étais capable de dire, « Ah, c'était russe, là, ça bouisse. » Puis je travaillais avec un gars de Monaco, moi, en Russie, puis quand on finissait ben nos meetings d'affaires, dans ta bronne, là, il apparaissait plein de bouteilles de vodka. Plein de bouteilles de vodka. Puis j'étais 10 000 kilomètres de chez nous, puis qu'est-ce que je fais? Puis mon gars de Monaco, il dit, Jacques, fais juste tremper tes lèvres dedans. Il dit, Pierre, si je trempe mes lèvres dedans, moi, je meurs ici, puis c'est fini, on m'oublie, ils vont m'enterrer. Ils m'enterrent en masse, eux autres, les Russes du monde. Fait que, dans ce place-là, là. Puis je pensais à des partages que j'avais eus des gens qui étaient retournés consommer, puis il n'y en a pas un qui me dit que ça y avait fait du bien, ou une. Puis ça me permettait de dire non merci, je consomme pas. Puis à me tenir debout, à dire non merci, je consomme pas, il apparaissait plein de bouteilles de vodka, puis une bouteille d'eau minérale. Une bouteille, puis je faisais mes ching-ching avec mon eau minérale, puis longue vie à vous autres. Puis c'est ça. Mon histoire avec Horace, c'est comme une histoire d'amour. Autant que ma vie, c'était de la marde quand je consommais, mais autant aujourd'hui... J'ai le bonheur de vivre, puis comme on dit, hein, heureux, joyeux et libre. Ça fait que s'il y a des nouveaux ou des nouvelles dans le mouvement, un alcoolique qui boit pas, là, c'est un miracle. C'est un miracle. Fait que essaye de pas partir avant que le miracle arrive. Je m'appelle Jacques, puis j'étais un alcoolique.
Merci Jacques, ça fait du bien à entendre. C'est de l'espoir, c'est de l'amour. Merci beaucoup. Et pour terminer, un beau jeune homme, on va accueillir François.
Bonjour à vous tous, mon prénom est François, je suis alcoolique. Mais moi je suis bien content d'être ici avec vous autres aujourd'hui. C'est quelque chose de gros pour moi. Ma date d'abstinence, c'est le 20 août 2011. Fait que je suis un jeune membre, puis je me réveille. Je suis en train de me réveiller. J'ai eu une grosse année. Mon Dieu, montre-moi à m'aimer. Puis merci de le faire. Mon Dieu bénit tous ceux qui en ont besoin, mais commence par moi. Ça, c'est pour l'ego. Mon Dieu, aujourd'hui, je vais essayer de chercher, je vais essayer d'accepter, puis de faire ta volonté. Pour ça, je vais avoir besoin beaucoup, beaucoup d'honnêteté. Beaucoup d'humilité. Beaucoup de tolérance. Beaucoup de compréhension. beaucoup de douceur, beaucoup de gentillesse, beaucoup de fidélité. Il y a quelques autres couleurs de mon Dieu d'amour que j'oublie. Mais je veux vraiment dire un beau bonjour à Annie. Bonjour. Il y avait une jeune femme qui s'appelait Geneviève aussi. Tout à l'heure, elle est partie. Je voulais la saluer aussi. Ouais. Hey, c'est gros, hein? J'ai assisté au meeting hier. J'étais touché. J'ai été touché par Hervé. Merci pour ton partage. Merci, Jacques. Merci, Kathleen. Merci à tous ceux qui sont proches de moi, mes amis. Il y en a dans la salle. Je vous remercie. J'ai pris un long chemin pour m'en venir ici. J'avais un ami à mes côtés aussi, puis je te salue, toi aussi. Ouais, heureux, joyeux et libre. C'est le même que je suis aujourd'hui. C'est ça que je suis venu vous dire. Ça arrive souvent, je pleure. Fait que je vais peut-être pleurer. Je commence juste à pogner ça, les émotions, là. Je veux les vivre. Ouais, c'est le plus gros meeting que j'ai fait, ça, hier, moi. Vous êtes pas mal nombreux. J'ai trouvé quelque chose d'incroyable. J'ai trouvé le chemin de mon cœur. Ça m'a pris 27 ans de consommation pour trouver. Je me remercie d'avoir commencé à boire, tu sais. Mais ça a pas été rose, tu sais. Je me trouve aujourd'hui devant vous. Je m'en viens vous dire quelque chose que j'ai pas planifié, tu sais. Il y a du monde qui me demandait, tu sais, t'es-tu nerveux, tu sais. Je le suis pas. Je suis très intense, là. Mais je suis bien. Fait que j'ai trouvé le chemin en... J'ai lu à quelque part que c'était le chemin le plus long à trouver pour un homme. Fait que ça me ramène à ma consommation. La consommation, ça m'a permis d'être ici aujourd'hui, mais moi, ça a failli pas passer, tu sais. Moi, ça m'a amené à vouloir en finir avec la vie. T'sais. J'étais un beau bonhomme. T'sais. Aujourd'hui, je le sais. Mais j'ai voulu m'enlever la vie. Et j'ai eu très peur. Parce que ça a failli arriver. Aujourd'hui, je vois la vie avec les yeux du cœur. Aujourd'hui, je veux m'entourer avec des gens qui ont la main sur le cœur. Les deux personnes que j'aime le plus en ce moment sont, on dirait, sur le même chemin que j'étais. Tu sais. Ah. Ouais, fait que c'est ça, je parcours le gros livre. Moi, ce que je m'en viens vous dire ici aujourd'hui, ça m'a été transmis par vous, par des gens proches de moi. mais je parcours le gros livre. Je suis venu ici de Montréal, j'ai un gros livre avec moi, puis j'ai un 12-12. Puis depuis les deux dernières années, j'étudie ces livres-là. Je les ai toujours. Je relis les mêmes passages. Ma conscience, depuis un an, elle s'est ouverte comme quelque chose qui est incroyable. J'ai eu beaucoup de souffrance. Le décès de ma mère m'a amené à ça, dernièrement. Parce que même avant ma maladie, avant que je commence à boire, selon moi, je consommais ma mère. Étant très jeune, là. Mais grâce à vous, les dernières années, j'étais proche de ma mère. J'ai pu lui dire que je l'aimais. Je sais qu'elle serait fière aujourd'hui. Comme je vous ai dit, je me réveille. Je fais un travail depuis plusieurs années. J'ai été beaucoup aimé par mon père aussi, puis il m'a transmis ces valeurs-là de travailler. Ça m'a permis de garder mon emploi, malgré la déchéance des dernières années. Moi, je me réveille au beau milieu de ce monde aujourd'hui. Tu sais. J'aime beaucoup la formule de l'attrait. Parce que moi, j'ai essayé de dire au monde comment faire. Moi, j'ai fait ça dans ma vie. Ça marche pas. Le monde se sauve en courant. Ça rend le monde malheureux. Tout ce que j'ai à faire, c'est à être moi. C'est pas merveilleux, ça? C'est ça d'en haut. J'ai juste à être moi. Puis ça va bien plus loin qu'en haut. Dans ma vie de tous les jours, j'ai juste à être moi. Au travail. Je suis entouré de gens qui selon moi, c'est ma perception, mais qui mettent leur énergie dans des choses qui sont pas le langage du cœur. Et je les vois qui sont très malheureux. Mais moi, j'ai une grâce. Moi, j'ai un cadeau. Puis tout ce que j'ai à faire, c'est être qui je suis. Puis peut-être que je vais les influencer sans rien lui demander. Tu sais. Peut-être qu'ils vont avoir un coup d'ombre. Moi, j'aimerais ça être heureux comme ce gars-là. Peut-être que j'ai juste à faire ça. Et je vous l'ai dit, les deux personnes que j'aime le plus, c'est mon fils puis mon gars, mon père. C'est difficile de rouler à la traque aux autres. C'est difficile de voir mon garçon souffrir. Puis mon père, qui vient de perdre sa femme, il venait juste de célébrer 50 ans de mariage. Je trouve qu'il boit beaucoup. Est-ce que je devrais lui dire quoi faire? Il va-tu m'écouter? Moi, je voulais rien savoir. Cette année, ça a été une grosse année pour moi parce que j'ai fait une quatrième étape. Je poursuis le programme le mieux que je peux. Ça a fait beaucoup de place dans moi. Beaucoup, beaucoup de place. Je sais pas trop quoi vous dire. Non, je vais y aller tranquillement, mais c'est ça que ça fait. Ça a libéré. Pardon. Ça m'a libéré. J'ai jamais été libre comme que je le suis. Je me suis fait beaucoup de place pour ce qui s'en vient. Vous êtes donc bien tranquille, hein? L'ampleur de l'AA ici, on le voit. Moi, je suis vraiment fier de faire partie d'AA. Je suis fier d'être un membre. Moi, je pense que c'est ma vision, là. Ça n'engage pas personne, puis ça n'engage pas AA, là. Mais je pense que c'est vraiment la clé de l'humanité. On s'en va partout, on arrive partout. On fait pas la différence entre les langages, entre les personnes. C'est d'une couple d'années, mon garçon va venir parler ici. Je souhaite vraiment vous laisser le temps de jaser entre vous autres. Vraiment, je souhaite ça. J'ai compris quelque chose. Ça donne à rien d'essayer d'expliquer quelque chose à quelqu'un. S'il n'est pas là, s'il n'est pas rendu là, il ne comprendra pas. Laissez les gens vivre ce qu'ils ont à vivre. Être là. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que ça. C'est pas ça la spiritualité. D'accepter comment est-ce que les autres sont. Sans essayer d'échanger. Moi, je pense que c'est ça. Je veux pas prier Dieu quand j'en ai besoin. Je vais essayer de faire ce qu'il me demande, ce qui est devant moi. À chaque fois que ça va mal dans ma vie, c'est parce que je fais pas ça. Je vous souhaite de dire à quelqu'un que vous l'aimez aujourd'hui. Parce que c'est à vous que ça fait bien plus de bien. Je vous remercie beaucoup pour votre amour. Je vous souhaite un beau congrès. Merci.